les jardinières.
Le mois de mars annonce le retour du printemps. Il débutera le 20 mars. Et pour se préparer au mieux, rien ne vaut les conseils des jardinières. Bonjour Brian.
Bonjour Mylène.
Stéphane Caravellas est avec nous ce matin. Bonjour Stéphane.
Bonjour.
Stéphane Caravellas, vous êtes responsable maraîcher dans la microferme biologique La Rochette à Charmoy. Merci d'être avec nous ce matin.
Et installez-vous confortablement. Le jardinage est à l'honneur jusqu'à 8h.
7h, 8h. Les jardinières.
Stéphane, le mois de mars débute et en pleine, c'est déjà l'explosion des petites fleurs et les bourgeons arrivent aussi. Du coup, on imagine que les jardiniers et jardinières amateurs auront du travail ce week-end. Qu'est-ce qu'ils peuvent entreprendre ?
Alors, c'est vrai que en ce moment, les températures sont vraiment clémentes. Hein. J'ai pas vu le mois de février. Il n'a pas existé pour moi. Non, mais alors c'est vrai que c'est vraiment une période qu'on peut, bon, on peut prendre de l'avance, hein, surtout nos plantons, nos semis, le sol, ça fait un petit moment qu'il n'a pas plu, donc il peut être facilement travaillé. Voilà, donc il y a la flore se réveille, les plantes se réveillent. Donc si vous n'avez pas toujours pas nettoyé votre jardin de l'année passée, ce qui peut arriver, enlevez les vieilles tiges pour laisser permettre, pour permettre aux jeunes pousses de passer. Si c'est des plantes, par exemple, qui disparaissent en hiver et qui repartent au printemps, ça peut être une chose. Après, y en a peut-être qui ont pris un peu d'avance, qui ont déjà des plantons qui vont être prêts à planter d'ici une ou deux semaines. Ce qui est notre cas, le mois de mars, c'est vraiment une période pour faire ça. N'hésitez pas quand même à garder vos voiles de forçage, parce que on ne sait jamais comment les températures peuvent évoluer non plus, parce que le risque de gelée est quand même toujours présent. Je dirais que c'est profiter de cette période pour prendre un petit peu d'avance sur la saison, que peut-être d'autres années ne le permettent pas, quoi.
Merci beaucoup Stéphane. Vous êtes là aussi pour répondre aux questions de nos auditeurs. Et vous avez toujours trois possibilités pour nous joindre, soit par téléphone au 0900 70 20 20. Vous avez aussi le choix du SMS en tapant jardin, un espace et la question. Puis il suffit de nous envoyer ce message au 939. Et puis vous avez aussi, troisième possibilité, le formulaire disponible sur notre site sous l'onglet émission questions jardinières.
On va se retrouver juste après une pause musicale pour parler couches chaudes, une technique qui permet de donner de la chaleur à nos semis. Stéphane nous expliquera tout ça dans la suite des jardinières.
Les jardinières.
Ce matin, nous allons parler couches chaudes. Nous sommes en compagnie de Stéphane Caravellas, maraîcher dans le Jura. Stéphane, quand vient l'heure des semis, on entend souvent parler de couches chaudes. Alors, peut-être des gens n'ont jamais entendu parler des couches chaudes. Pouvez-vous nous donner une définition ? De quoi s'agit-il ?
Alors, pour faire un peu court, une couche chaude, donc c'est une ancienne technique qui utilise la chaleur qui est dégagée d'un tas de matières organiques. Qui se décompose en fait. Donc biologiquement, quand beaucoup de matières organiques sont entassées au même endroit, dans un tas, quoi, ça dégage de la chaleur. C'est pour ça qu'on appelle le fumier, parce qu'il fume en fait, il fume de la vapeur. Donc le fumier, souvent il est en tas et puis il fume. Voilà. Donc en fait, couche chaude, c'est ça, c'est que ça utilise cet aspect-là de chaleur. Pour, comme outil, en fait, pour forcer des cultures, surtout des légumes en général, mais après ça peut être aussi des fleurs, ça dépend. Donc c'est une couche chaude, donc c'est un tas de matières que l'on construit exprès pour forcer, en fait, dégager de la chaleur, pour forcer nos cultures, que ce soit des plantons ou que ce soit des semis que l'on fait directement sur la couche. En fait, sur un petit lit de terreau, on verra ça un petit peu plus tard.
Alors pourquoi est-ce que c'est si intéressant de semer sur couche chaude ?
Clairement, ça permet en tout cas à une certaine période de l'année, quand il fait très froid, de s'émanciper en fait de la saison. En général, on fait les couches chaudes dans les périodes de janvier à mars, en général, là où les températures sont les plus basses. Et ça nous permet de gagner en fait, plusieurs semaines sur la saison. Soit effectivement, soit on sème directement sur la couche, c'est-à-dire qu'on On construit la couche chaude, on fait un tas d'une certaine hauteur, certaine largeur, c'est à nous de choisir. Ensuite, on met un lit de terreau dessus, et puis on sème directement, par exemple, des radis, des carottes, etc. Dessus, et on laisse, en fait, faire la couche, voilà, simplement.
Donc là, vous l'avez dit, hein, on prépare ça de janvier à mars, ça serait presque un peu tard de la créer maintenant, cette couche chaude ?
Non, pas du tout, pas du tout. Je dis que on peut commencer en fait à partir du mois de janvier ou fin décembre à construire une couche parce qu'il y a en fait il y a toujours un petit temps de latence où dès qu'on construit la couche il y a souvent ce qu'on appelle le coup de feu en fait donc c'est une période qui va jusqu'à 10 jours parfois 2 semaines où la température elle grimpe très très haut dans la couche. Puis elle redescend en fait gentiment, et c'est à ce moment-là où la température redescend, que le coup de feu est passé, que l'on peut utiliser la couche chaude sans risque de en fait, brûler nos plans. Quoi. Donc non, il n'y a pas de souci. Donc on peut en faire une maintenant, elle sera prête voilà, la première semaine de mars, la semaine prochaine, ou en fin de semaine prochaine, ou début de semaine suivante. Et puis là, on pourra l'utiliser sans trop de soucis. Quoi.
Mais alors de quoi exactement est-ce qu'on a besoin pour créer une couche chaude ?
Alors, de matière organique, en général, ça dépend un petit peu ce qu'on a sous la main, mais de matière organique qui est susceptible de fermenter. C'est-à-dire qu'on ne peut pas... même des copeaux de bois, hein, j'allais dire, on ne peut pas utiliser de copeaux de bois, mais même des copeaux de bois, s'ils sont attassés suffisamment... si le tas est suffisamment grand, même des copeaux de bois, ils fermentent. Mais dans notre cas, puisqu'on fait des tas un peu plus petits, à l'échelle du jardin ou d'une plate-bande, en général, on a besoin de matières qui sont plutôt azotées, plutôt mouillées, comme des feuilles mortes, comme de la paille humide, comme du fumier de cheval. Ça, c'est vraiment la matière... originelle, si on veut, des couches chaudes, fumée de cheval, fumée de vache, des composts de déchets verts, déchets verts broyés, ou ça peut être un mélange un peu de tout aussi, de tout ça. Ça dépend un petit peu de ce qu'on a sous la main. Mais originellement, parlant, la couche chaude, elle a été fabriquée surtout avec du fumier animal et plutôt le fumier de cheval, quoi.
Alors, on a notre fumier de cheval. Maintenant, on aimerait créer cette couche chaude. On imagine un grand bac. C'est des couches ? Comment ça se passe ?
Alors, il y a dans le mot de couche chaude, ça c'est un terme relativement moderne, entre guillemets, parce que, en fait, c'est, donc, comme je disais, c'est une technique qui est très ancienne, que M. Lacquintini, donc le jardinier du roi Louis XIV, c'est 17e siècle, sauf erreur, ou 18e siècle, je ne me souviens plus exactement, a mis un petit peu au point, il a fait pas mal de recherches là-dessus, il a mis gentiment au point cette technique. Et du coup, il y a, au fil des années, des siècles, il y a plusieurs façons, comment dire, plusieurs sortes de couches en fait, qui ont pris forme pour différentes raisons et différentes utilités. Donc si, par exemple, là, je reprends en fait, quelques définitions dans le livre de la culture maraîchère de Paris, donc au 19e siècle, ils ont 5 sortes de couches, quoi. La couche mère, la couche pépinière, la couche d'hiver, la couche de printemps, et puis la couche en tranchée, par exemple. Donc voilà, c'est différentes couches qui varient en fait en taille, épaisseur aussi de matière, pour dégager plus ou moins de chaleur en fonction de la période. Voilà, la couche d'hiver, elle est un peu plus épaisse, la couche de printemps un peu moins épaisse, la couche en tranchée, donc on creuse en fait une tranchée pour mettre le fumier, par exemple, au fond, pour différentes raisons. Il y a toutes sortes de façons de faire. Mais en général, c'est un tas de matière organique sur laquelle on pose un cadre en bois, sur laquelle on pose une vitre, ou bien un voile, ou quelque chose pour retenir en fait la chaleur autour de nos plants.
Voilà. Merci beaucoup Stéphane. La suite de vos explications et comment semer dans une couche chaude, ce sera juste après la pause musicale.
7h, 8h, les jardinières.
En compagnie de Stéphane Caravellas, responsable maraîcher, dans une micro-ferme biologique à Charmoy, nous parlons de couche chaude. Alors Stéphane, c'est peut-être un raccourci un peu simple, mais est-ce qu'on peut dire que la couche chaude est une solution moins onéreuse et plus écologique que les mini-serres ou que les serres en général ?
Alors de nos jours, je dirais que oui, ça c'est clair. Après, si on arrive à combiner la couche chaude dans une serre, c'est parfait.
On fait pousser des oranges.
On peut en tout cas faire pousser des tomates bien plus tôt que voilà. Enfin, c'est comme si notre serre elle était chauffée quoi.
Ouais, j'allais vous poser cette question de qu'est-ce qu'on peut semer au juste dans notre couche chaude.
Ouais, alors si on part justement, si on utilise la couche chaude comme un lit de semis, donc on construit notre couche de fumier par exemple, on met 5 à 10 cm de terreau dessus, on attend que le coup de feu passe, et puis ensuite on peut semer en fait toutes sortes de petits légumes qui ont des variétés un peu précoces. Donc, parce qu'il ne faut pas oublier non plus qu'à des périodes en hiver, janvier, etc., la lumière elle est très peu présente. Donc il n'y a pas toutes les variétés non plus qui peuvent se développer à ce moment-là. Donc c'est, en général, ce qu'on sème, c'est des carottes précoces, des radis, des navets, démarrer les tomates, les aubergines, les poivrons. Donc c'est un peu, je dirais ça comme ça, peut-être les petites verdures, certaines laitues aussi. Donc ce n'est pas forcément tous les légumes, mais... Je dirais que c'est un peu les plus classiques, ouais.
Et puis on sème, c'est pareil que dans un semis en godet, par exemple. On sème nos graines, on arrose, on surveille, pareil.
Ouais. Alors oui, exactement, c'est pareil. Simplement que donc il y a la chaleur qui vient de dessous si on sème par exemple dans le terreau. Donc en fait, il y aura même souvent très peu besoin d'arroser en fonction du taux d'humidité de la couche. Parce que pour que la couche puisse fermenter, si elle n'est pas assez humide, on l'arrose en plus. Et puis donc, en dégageant de la chaleur, elle dégage aussi de la vapeur. Et donc elle humidifie en fait le milieu, si on veut. Donc que ce soit un semis direct sur terreau, sur couche, ou bien poser des caisses avec des godets sur la couche, en fait. C'est le même, on surveille, on vérifie, mais en général, il y a besoin de moins arroser quand même.
Merci Stéphane. On va vous poser encore quelques questions sur cette fameuse couche chaude, cette solution pas très onéreuse et plutôt écologique. On va vous retrouver d'ici quelques minutes. Ça serait après une pause musicale, météo et inforoute. Merci.
7h, 8h. Les jardinières.
Seconde partie des jardinières, on parle jardinage jusqu'à 8h et nous sommes en compagnie de Stéphane Caravellas, responsable maraîcher dans la micro-ferme biologique La Rochette à Charmoyes, et c'est dans le Jura.
Stéphane est là pour répondre à vos questions jardinage. Vous avez trois possibilités pour nous joindre. Vous pouvez soit nous appeler au 0900 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Vous aurez la chance de parler en direct avec notre maraîcher. Vous pouvez aussi remplir le formulaire disponible sur notre site internet sous l'onglet émissions questions et jardinières et joindre une photo à votre question. Ou alors simplement nous envoyer un SMS. Vous tapez jardin un espace suivi de votre question et de votre nom. Et vous envoyez ce message au 939.
Ce matin, en compagnie de Stéphane, nous parlons de couche chaude, une ancienne technique où on fait un tas de matières organiques qui se décomposent. Bon, c'est résumé très très court, hein, pour en savoir plus, réécouter toute l'émission. Mais on voulait savoir, Stéphane, cette couche chaude où on empile cette matière organique qui va fermenter, est-ce qu'elle a besoin de suivis spéciaux? Est-ce qu'il faut faire attention à différentes choses?
Alors, c'est vrai que je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais la couche chaude, elle a une durée limitée. Ça veut dire que quand on empile le tas, comme j'ai dit, il y a un coup de feu, c'est ce qu'on appelle le coup de feu, donc ça monte en température très 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 haut. Ensuite, ça descend petit à petit jusqu'à pendant environ 3 semaines, 1 mois. Voilà, il y aura toujours de la chaleur qu'on pourra utiliser, mais au bout d'un mois, 3 semaines, 1 mois, en fonction de la taille de la couche, plus elle est épaisse, plus elle durera dans le temps. 3 semaines, 1 mois, il faudra la défaire et en faire une nouvelle. Alors, l'idée, c'est qu'avant que la première s'éteigne, on crée la deuxième une semaine avant que la première s'éteigne. Comme ça, on a toujours en fait, une couche qui dégage de la chaleur. Quoi. Ça, c'est une chose, donc ça a une durée limitée. L'autre chose, c'est qu'il faut faire attention aussi aux écarts de température si vous mettez vos plants, que vous avez vos plantons sur la couche, et puis que la journée elle est très ensoleillée, et que, que vos plantons sont sous un voile ou sous une vitre. Il faut faire vraiment attention à ces écarts de température, pas que ça monte trop haut, quoi. parce que là, ça peut du coup cramer vos plants. Voilà. Donc, c'est vraiment important les journées ensoleillées, enfin, de toujours avoir un thermomètre sur la couche et du coup vérifier la température et les journées ensoleillées, ouvrir le voile, ouvrir la vitre, etc. pour voilà, rester autour de toujours 20, 25, 30 degrés maximum, quoi.
Voilà. Stéphane, la couche chaude, c'est une technique que vous utilisez, vous, dans votre exploitation. Où est-ce que vous en êtes à cette période dans l'utilisation de cette technique ?
Alors, on a fait notre première couche, c'était début janvier, sauf erreur. Et puis, là, on est déjà à notre troisième couche, parce qu'on a beaucoup de, on fait des plantons voilà, plusieurs fois par mois. Et du coup, voilà, on en a besoin de plusieurs. Et on en est à ce que nos plantons, nos premiers plants, vont bientôt être repiqués. Je pense là, dans une à deux semaines, voilà, en pleine terre, quoi. Donc ça se passe bien. C'est aussi une technique que je découvre, qu'on découvre. Professionnellement parlant, je veux dire qu'on met en application cette année, vraiment. Donc on a encore beaucoup de choses à apprendre, mais voilà, c'est relativement simple quand même, quoi.
Et puis Stéphane, un dernier conseil peut-être pour les curieux qui ont envie de se lancer dans la couche chaude ?
Alors, lancez-vous, ça c'est de toute façon la meilleure, le meilleur des apprentissages. Lancez-vous là-dedans. Un petit conseil, c'est si vous avez du fumier à disposition, prenez du fumier de cheval si possible. S'il est trop sec, arrosez-le quand vous empilez vos couches, mais pas trop l'arroser non plus, pas que la fermentation soit noyée, quoi. Et je vous conseille de mélanger, si vous avez un peu de vieux fumier, du fumier qui a déjà eu son coup de feu, avec du fumier tout frais, mélangez un peu les deux, et puis ça fait en fait une masse qui est beaucoup plus résiliente et qui durera plus longtemps, quoi. Si on n'utilise que du fumier frais, le coup de feu va aller hyper vite et la température va redescendre plus rapidement aussi. Et également, si vous prenez que du vieux fumier, ça va monter très lentement en température et jamais atteindre vraiment des 25-30 degrés comme on souhaite, quoi. Donc mélanger un peu les deux, ça fait un peu un entre-deux qui est bien, quoi. Voilà, ça c'est un conseil.
Merci Stéphane pour vos précieux conseils. On se retrouve pour la suite des jardinières juste après une pause musicale.
7h, 8h, les jardinières.
Comme chaque samedi, les jardinières égayent votre samedi matin entre 7h et 8h. Et en plus, vous avez la possibilité de poser vos questions jardinage à notre invité Stéphane Caravellas. Toujours trois possibilités pour le faire, Brian.
Et oui, la première, c'est par téléphone. Vous nous appelez au 0900 70 20 20. Vous aurez la chance de parler en direct avec Stéphane, notre invité. Vous pouvez aussi utiliser les formulaires disponibles sur notre site internet sous l'onglet émission questions jardinières, avec cette fois la possibilité de joindre une photo. Et puis troisième possibilité, vous saisissez de votre téléphone et vous nous envoyez un SMS. Vous tapez jardin, un espace, suivi de votre question et de votre nom, et vous nous l'envoyez au 939.
Et c'est justement par formulaire que nous a contacté Cyril de Baule. Il a joint une photo à sa question. Bonjour, j'ai acheté un bonsaï il y a environ 2 mois et je n'arrive pas à le récupérer. Que faire ? Merci d'avance et meilleures salutations. Alors Stéphane, on va peut-être commencer par décrire ce petit bonsaï mal en point.
Ouais, c'est vrai qu'il a l'air vraiment mal en point. Alors, il est dans un petit pot. La terre a l'air sèche. Lui, il a l'air complètement sec aussi. Il a l'air d'avoir été dehors aussi. Alors, je ne sais pas s'il a fait sa vie cet hiver à l'extérieur ou pas. Dans tous les cas, je ne suis pas spécialiste de bonsaï. Mais après, j'imagine que ça reste une plante comme une autre. Hein. Donc... en tout cas, visiblement, c'est clair qu'il a l'air sec, le terreau a l'air sec, donc je ne sais pas s'il a eu suffisamment d'arrosage ou pas. Peut-être qu'il était à l'étroit aussi dans son pot, qu'il aurait peut-être fallu le rempoter, changer le terreau, rajouter un petit peu d'engrais aussi. Voilà, je ne sais pas. Après, pour un bonsaï, il m'a l'air aussi très touffu. Comme s'il n'a pas été vraiment entretenu, voilà, je ne sais pas. Je ne suis pas du tout spécialiste, hein, mais... Mais donc peut-être que qu'un paysagiste serait mieux amené à répondre à cette question, quoi.
Bah peut-être on propose à Cyril de déjà l'arroser, lui donner un peu d'engrais, et puis on reprendra cette question la semaine prochaine en compagnie de Jean-Pierre Ribaud, qui lui est paysagiste, et on verra s'il a plus d'éclairage sur ce petit bonsaï. Merci Stéphane.
De rien.
Et avec cette prochaine question, nous avons des pommes de terre achetées en grande surface qui viennent de Suisse, et elles ont germé. Elles sont stockées dans notre cave. Est-ce qu'on peut les planter au jardin? Si oui, quand? Sinon, pourquoi pas?
Alors, les pommes de terre, bah, si vous êtes équipé, par exemple, d'une serre, vous pourrez planter vos pommes de terre mi-fin mars, sans trop de soucis. Ça vous fera des pommes de terre précoces, que vous récolterez du coup en grenaille, hein, donc petites pommes de terre rondes. Sinon, si vous n'êtes pas équipé comme ça, en pleine terre, il faudra attendre, voilà, je dirais, selon la situation où vous êtes, en pleine par exemple, faudra attendre voilà, début mai, mi-mai. Début mai, ça irait pour les planter. Et puis quand elles sortiront, bah, les gelées seront passées, quoi. Donc, ouais. Donc après, de manière générale, les pommes de terre, pour éviter qu'elles germent, avant que la date de plantation, il faut vraiment qu'elle soit dans un endroit frais et sans lumière, quoi. Voilà. Et c'est pas l'humidité non plus, quoi. Voilà.
Et Stéphane, mais donc c'est pas un problème qu'elles aient germé ces pommes de terre.
Alors ça dépend de la taille du germe aussi, hein. Si c'est un petit germe bien dodu, c'est parfait, c'est là qu'il est le meilleur. Après, si lors de la plantation le germe il fait 30, 40, 50 cm de long, ça fonctionnera, mais c'est un petit peu plus, elles ont un petit peu du mal à repartir dans le sol, quoi, parce que c'est, voilà, le germe sera, voilà, déformé, quoi.
Et Stéphane, souvent, quand on prend des légumes, par exemple, dans un magasin, et on se dit, oh, je vais replanter la graine, on n'a pas la même variété à cause des premières générations et tout ça. Est-ce que si on prend cette patate, on la plante, on aura, par exemple, si c'est une binge, on aura une pomme de terre binge, de sûr, ou ça pourrait tout d'un coup être une autre variété?
Non, c'est... En fait, les pommes de terre, c'est des tubercules, donc c'est pas des graines, donc il n'y a pas de... c'est pas une reproduction du plant, en fait. Donc c'est juste si on replante une binge, on plante en fait le même, comment dire, bagage génétique de la première plante. Donc on la replante à la même chose, quoi. C'est pas une semence. Les pommes de terre font des fruits qui portent des graines, mais c'est pas ça qu'on utilise. On utilise le tubercule qui en fait et cette capacité à la plante d'emmagasiner de l'énergie pour passer l'hiver et repartir au printemps. Donc c'est exactement la même plante, quoi.
On peut donc faire confiance, voilà, à la patate.
Absolument,
merci, ouais. Merci Stéphane pour vos réponses. On va se retrouver dans un instant après un petit peu de musique pour la suite et déjà la fin des jardinières.
7h, 8h. Les jardinières.
Ce matin, nous avons découvert la couche chaude, une technique ancienne qui permet de donner de la chaleur à nos semis. C'était en compagnie de Stéphane Caravellas, responsable maraîcher dans une micro-ferme biologique. D'ailleurs, si vous avez loupé cette partie des jardinières, vous pourrez la réécouter en cours de matinée sur notre site. Stéphane, le mois de mars débute tout juste et pourtant, il a déjà l'air, on a déjà l'impression d'être au printemps. La nature se réveille. Est-ce qu'on peut déjà semer certains légumes en pleine terre dans son potager?
Oui, bien sûr, oui. Tout ce qui est comme, voilà, radis, par exemple, des pois mange-tout, des betteraves, des carottes précoces, voilà, ça c'est un petit peu des épinards, évidemment. Tout ce qui est mesclun, jeunes pousses, pour faire des salades, quoi, qu'on coupe les feuilles pour faire... voilà, pour mettre en salade, comme de la Clayton de Cuba, ou bien des jeunes pousses de betteraves ou de laitue. Voilà, on peut semer du persil, on peut planter, gentiment commencer à planter aussi tout ce qui est oignon, ail et échalotes de printemps. Voilà, les fèves, évidemment aussi, qu'on aurait pu déjà semer au mois de février, hein. J'ai un voisin aussi qui a semé sa fève au mois de novembre et puis qui est déjà bien développé en ce moment. Donc voilà, lui, il a pris un peu d'avance. Voilà, après, c'est tout ce qui est semé en pleine terre. Si vous voulez garder cette avance-là, je vous conseille de les couvrir avec des voiles de forçage, voilà, pour accélérer un petit peu la germination, parce que le sol est toujours un petit peu froid quand même. Donc voilà, ouais, il y a vraiment beaucoup de petits légumes comme ça en variété précoce qu'on peut semer déjà maintenant.
Et puis si on attend des fruits pour cet été, est-ce qu'on peut aussi déjà commencer à s'occuper de ces petits fruitiers ?
Oui, alors là on arrive gentiment à la fin de la période de taille, parce que il y a certains arbres qui sont déjà en train de bourgeonner, hein. Tout ce qui est fruitier, etc., ben, à part la taille, ajouter du compost ou du fumier au pied des arbres, si besoin, c'est arrive gentiment à la fin, quoi. Après, ben, là, ça peut être la période gentiment de tailler les rosiers, les petits fruits comme les cassis, les groseilles, voilà.
Merci beaucoup Stéphane. On rappelle que vous êtes responsable maraîcher à la microferme biologique La Rochette à Charmoille. Très bon week-end et à bientôt chez les jardinières.
Merci beaucoup, bon week-end.
Merci Stéphane. Les jardinières vous donnent rendez-vous samedi prochain dès 7h. Nous serons en compagnie de Jean-Pierre Ribaud, paysagiste à Queuves. Et vous avez toute la semaine pour nous faire parvenir vos questions jardinage. Vous pouvez vous rendre sur notre site sous l'onglet émissions, questions aux jardinières. Vous remplissez le formulaire. Vous pouvez même joindre une photo ou alors vous pouvez nous envoyer un SMS. Vous tapez jardin, un espace suivi de votre question et de votre nom. Vous nous l'envoyez au 939. Bon week-end, Brian.
Bon week-end, Mylène.
Oui, bon week-end à moi-même également. Et bon week-end à toutes et à tous.
7h, 8h, les jardinières.